L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à l'astrologie. Il y a des gens qui pensent que c'est super. Il y a d'autres gens qui n'y croient pas du tout. Il y a des gens qui s'en moquent en lisant les magazines. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et donc, aujourd'hui, c'est une rencontre un peu particulière parce que je reçois ma propre astrologue, Sylvie Schramm. Et avec elle, on va parler de la transformation qu'on est en train de vivre en tant que société. Et aussi, évidemment, de l'astrologie à travers les âges et comment et pourquoi on y revient aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec cette conversation, forcément un peu mystique. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Sylvie.
Bonjour Grégory.
Est-ce que ça vous allez bien ?
Extrêmement bien.
Bon,
ça malgré fait une... l'ambiance un petit peu perturbée ces derniers mois.
Ça fait presque une année qu'on ne s'est pas vu, je crois.
C'est vrai.
Parce que mon anniversaire, c'est en décembre, donc je vous vois à peu près à ce moment-là,
tout
en général.
Fait, tout à fait.
On va parler d'astrologie. C'est un sujet qui est important à plusieurs niveaux, qui est important pour moi parce que c'est un sujet que, enfin, et vous le savez, qui m'intéresse depuis très longtemps. Et en même temps, c'est un sujet, il me semble, qu'on voit revenir sur le devant de la scène avec un retour du sacré de manière plus générale. Comment vous expliquez ce désamour de l'astrologie et puis ce petit retour en grâce en ce moment ou en tout cas depuis quelques années?
Alors en fait, l'astrologie est très méconnue et souvent ceux qui la critiquent ne la connaissent pas bien, ne l'ont pas étudiée. Et d'après la physique quantique, tout est énergie dans l'univers. Mmh. Et cette énergie peut être perçue sous forme de particules, donc la matière, ou aussi sous forme de fréquences qui sont des ondes. Et donc un thème astral, c'est une onde forme, c'est une harmonie numérale qui parle en fait de nos sujets d'incarnation. Donc ça n'est pas magique. Quand vous naissez, quand votre être a décidé de s'incarner, au moment précis de votre naissance et dans le lieu précis, qui est quand même très important en astrologie, se forme une figure géométrique qui va être votre thème sur toute votre vie. Et en fait, ce thème va être une empreinte numérale qui va parler des points de votre karma, dispensateur d'initiation, d'expérience et autres, et qui va vous donner des impressions psychiques, physiques bien sûr, et également spirituelles. Je préfère dire mystique, mais on y arrive bientôt, puisque la Covid nous projette dans quelque chose de beaucoup plus mystique dans les années qui viendront.
Complètement.
Et donc, la naissance est le résultat d'incarnations passées. Mais, alors, seulement dans l'incarnation, on peut parler de vie antérieure. Mais quand vous mourrez une fois de plus, tout s'arrête. C'est-à-dire que vous retournez de l'autre côté du voile. Et de l'autre côté du voile, il n'y a plus ni espace ni temps. Et toutes vos expériences, qu'elles soient positives ou moins positives, hélas, se pluguent dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Et donc, vous faites le bilan et parfois vous revenez. Mais il ne faut pas se perdre dans cette histoire d'incarnation, de réincarnation. En fait, ça existe et ça n'existe pas. Les deux sont vrais.
Mais alors, l'astrologie, ça a été à l'université pendant des années.
pendant la plupart de la...
Jusqu'au XVIIe siècle, absolument, Grégory, tout à fait.
Et aujourd'hui, ça n'y est plus. Mais c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on se dit finalement, l'astrologie, est-ce que c'est une science ou pas, mais en fait, qu'est-ce qu'une science? C'est une vraie question aussi, parce que la sociologie ou la psychologie, c'est pas vraiment une science non plus, dans l'absolu. Et pourtant, ça est encore, évidemment, à l'université. Comment se fait que c'est sorti de l'université? Et vous me parliez de Jung qui a réhabilité au début du XXe siècle l'astrologie. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Tout à fait. En fait, l'astrologie a été enseignée à l'Académie des sciences jusqu'au XVIIe siècle. Et elle a été sortie de l'Académie par Colbert. Et d'ailleurs, cet édit a été signé par Louis XIV, qui est quand même assez antithétique, parce que Louis XIV se faisait appeler le roi soleil. c'est quand même assez... Donc, pendant trois siècles, l'astrologie est restée cachée. On la pratiquait toujours, mais on n'en parlait pas. Alors que maintenant, au XXIe siècle, on donne le nom de son astrologue à ses amis, on podcaste ses consultations et autres. Donc, c'est un peu le point. Et donc, il a fallu ces trois siècles pour que l'astrologie soit remise au goût du jour par des astrologues qui ont courageusement repris le flambeau et qui ont republié des ouvrages très connus, notamment celui de Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui fut le dernier astrologue royal. C'est lui qui monta le thème de Louis XIV, mais qui ne le suivit plus puisque Colbert y était opposé. Notamment, pas seulement Colbert, mais... Et donc, en fait, Jean Hérouse a fait partie de ces astrologues très connus qui ont remis l'astrologie au goût du jour donc, dans les années 1930. Georges Muchery, que vous connaissez peut-être, Robert Dax, Eudes Picard, Paul Flambard et Max Endel, qui est très connu, lui. Et donc, à la même époque, Jung s'est intéressé vivement à l'astrologie et je vais citer ce qu'il disait de cette science donc à l'époque. Si des gens dont l'instruction laisse à désirer ont cru pouvoir jusqu'à ces derniers temps se moquer de l'astrologie, la considérant comme une pseudo-science liquidée depuis longtemps, cette astrologie remontant des profondeurs de l'âme populaire, puisqu'elle était restée quand même très populaire, quoi qu'il en soit, se présente de nouveau aujourd'hui aux portes de nos universités qu'elle a quittées depuis trois siècles. Donc. Et il a poursuivi, il y a eu beaucoup de cas d'analogie frappante entre l'horoscope et la disposition caractérologique. Il y a même la possibilité d'une certaine prédiction quant à l'effet psychique d'un transit planétaire. C'est mon quotidien en consultation, quoi qu'il en soit. Et on peut attendre avec un degré assez haut de probabilité qu'une certaine situation psychologique bien définie soit accompagnée par une configuration astrologique analogue. Donc il parle des transits planétaires, ces transits qui font qu'ensuite notre vie avance et que nous ayons des expériences différentes dans les mois, années bien sûr. Et à chaque anniversaire, donc la révolution solaire de la personne se plugue dans son thème natal et va donner tout un champ d'expérience pour s'initier à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres et autres. C'est pour ça que nos années sont toutes différentes les unes après les autres. Donc parfois vous avez une super révolution solaire, parfois c'est moins gai, dirons-nous.
j'ai fait les deux.
Et, oui, oui.
Et c'est marrant parce que Michel Mefazoli, que j'ai reçu plusieurs fois sur ce podcast, il a essayé de réintégrer l'astrologie dans l'université et il en a payé le prix, en particulier... Il n'a pas réussi à rentrer à l'Académie française. Mmh. Il a été rejeté en tant que sociologue pour avoir osé défendre des thèses autour de l'astrologie. Donc, c'est en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai la sensation qu'il y a une sorte de mensonge autour, enfin, pas de mensonge, mais de non-dit, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est-à-dire qu'on a des présidents, des puissants qui vont voir des astrologues. Donc, c'est quelque chose d'établi quand même. Il n'y a pas que, mais c'est aussi évidemment populaire. Donc, un peu tout le monde peut y aller. Et dans le même temps, dès qu'on parle d'université, de sérieux, bah, du coup, on rejette en disant « bah non, l'astrologie, c'est pas sérieux ». Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ce sont les mêmes qui disent que c'est pas sérieux et qui vont voir des astrologues. C'est très étrange.
Oui, et pourtant, c'est vraiment basé sur des bases mathématiques, en réalité. Je dis que l'astrologie est une science parce qu'elle est vraiment basée sur la descente des nombres qui appartiennent au monde des principes dans l'incarnation, et donc dans une géométrie variable selon les individus. Et comment la défendre? En fait, pour la défendre, il faut la connaître. Et alors, il y a encore quelques années, bon, il y a un certain nombre d'années, quand une personne la décriait, alors je disais, bon, eh bien, je vais faire votre thème, comme ça vous allez comprendre que l'astrologie, c'est sérieux. Mais bon, c'est épuisant. Et je pense aussi que c'est l'ego qui commençait à pulser par rapport à ça. Donc j'ai abandonné. Mais je pense que chaque personne qui s'y intéresse à minima va comprendre que c'est vraiment extrêmement sérieux. Et très aidant aussi pour le quotidien. Vous savez, c'est un outil de connaissance de soi absolument fabuleux. C'est d'abord ça, avant d'être un outil de projection. Alors évidemment, on peut prédire l'avenir. D'ailleurs, en fait, je parle de l'avenir pour essayer d'améliorer le présent, vous comprenez? C'est pas pour savoir, savoir connaître l'avenir, ça n'est pas forcément très intéressant. Mais à partir du moment où ça peut vous faire faire des choix plus judicieux pour votre vie personnelle ou professionnelle, alors pourquoi pas?
Et alors vous, en tant qu'astrologue, vous avez sans doute vu passer, parce que moi, il y a... J'écris ça dans mon livre, mais effectivement, vous l'avez dit aussi. Il y a 10 ans, quand je parlais de ma voyante ou de mon astrologue, les gens se moquaient de moi, ou en tout cas, disons que j'étais pas forcément fier, ou en tout cas, je faisais très attention à qui je le disais ou à qui je le disais pas. Et aujourd'hui, les gens sont très curieux de comprendre. Ah bon, mais t'as une astrologue. Alors, du coup, maintenant, tout le monde veut savoir qui est mon astrologue. Et me demande les coordonnées très régulièrement. Je vous ai envoyé d'ailleurs des tonnes de personnes.
Oui, je vous en remercie d'ailleurs. Je vous en remercie.
Au fur et à mesure des années, oui. Dont Ophélie qui vous a reçu sur son podcast.
Tout à fait.
Vous avez senti cette transformation au fur et à mesure quand vous vous êtes intéressé au sujet, que vous en avez fait plus ou moins votre métier, et puis c'est devenu votre métier au fur et à mesure, parce que ce n'était pas intégralement votre métier au début, bien sûr.
Alors non, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours été passionnée par l'astrologie. Même adolescente, je lisais des ouvrages. Et donc, plus le temps a passé, et plus j'ai senti une forme d'obligation d'en faire quelque chose de plus professionnel, parce que je me suis aperçue que ça aidait énormément mon entourage. Donc j'y étais encouragée. Mais actuellement, nos millennials sont très concernés par l'astrologie comme un outil de connaissance de soi. Ça donne un sens à leur existence. D'ailleurs, on voit qu'ils plébiscitent le développement personnel à travers tous les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit. Et donc, tous les repères disparaissent. La Covid arrive. Donc, toutes ces questions sont là pour nous faire réfléchir à l'avenir et à la façon dont on doit se comporter. Alors, nous-mêmes avec nous-mêmes, je dirais, et aussi avec les autres. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai amené le thème natal de la France, c'est de voir que la Lune qui représente la foule, donc les Français, le peuple, est en Cancer, donc dans cette 5e République de France qui est née le 6 octobre 1958. Et cette Lune en Cancer dit que les Français ont un très bon fond, ce sont des gens plutôt sympathiques. Mais cette Lune est assez mal aspectée. Donc, elle dit de nous également que nous sommes un peuple qui avons un désir d'opposition, de révolte, associé à une forme de violence. Donc, à mon sens, dans les années qui vont venir, nous allons devoir réformer ceci pour être beaucoup plus cohérents, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, pour être dans une forme de concertation et d'entraide majeure pour pouvoir avancer plus vite dans le monde qui commence à se dérouler sous nos yeux.
Et alors justement, en fait, vous parliez du Covid. Alors moi, j'ai du mal avec la Covid, mais je sais qu'on dit la Covid. Hein, oui. Mais où est-ce que ça s'inscrit dans... j'ai envie de dire, l'évolution qu'on est en train de vivre en tant que société. Moi, je vois effectivement un vrai retour du sacré, on en parlait au tout début. Et puis, j'ai l'association que la Covid accélère ce mouvement qui est finalement en train d'advenir et qu'on est en train de faire un changement total de société, finalement.
Tout à fait. La Covid est un symptôme de nos manquements et va nous obliger à changer nos comportements, mais personnels, mais globaux, mmh. et aussi mondiaux, hein, internationaux. Mmh. En fait, c'est la puissante conjonction Pluton-Saturne-Jupiter qui a démarré en Capricorne, qui a démarré le Covid, donc fin 2019-2020. Et il y a une recrudescence de la transmission actuellement, parce que la Covid est transportée par cette conjonction qui était rétrograde, c'est-à-dire les planètes semblaient avoir reculé dans le ciel, et elles sont à nouveau exactes en octobre-novembre, donc 2020. Maintenant, au moment où on se parle. Donc, d'où cette recrudescence et ces prises de conscience globales que le monde ne pourra pas revenir à l'ancien. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de perturbations chez les personnes. Et elles ont pensé que c'était juste un épisode et qu'on allait pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus lisse et de confortable. Et ça n'est pas possible. Puisqu'on voit que jusqu'en 2023, ce sera assez cabossé, hein, si vous voulez bien passer cette expression. Mmh. Et Pluton, d'ailleurs, va rentrer en Verseau le 23 mars 2023. Et c'est pour moi un marqueur d'un nouveau paradigme. Mais il faut savoir que l'amélioration réelle que je vois, c'est plutôt vers 2033.
Demain.
Demain, oui, tout à fait. Mais vous savez, à l'aune de l'univers, c'est une poussière d'étoiles.
Hein. Ah oui, non, c'est sûr. À l'aune de l'univers, c'est sûr. À l'aune de nos vies, c'est plus compliqué.
Il y aura des moments sympathiques et moins sympathiques, mais il y a tout un travail à faire jusqu'à. Alors, sur plusieurs générations. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la tarte à la crème, l'ère du Verseau. Mm-hmm. L'ère du Verseau, c'est le nouvel homme. Alors, c'est le nouvel homme, on l'espère, réchauffé par l'amour avec un grand A. Mmh. Mais c'est changer nos mentalités et aller beaucoup plus vers la mystique. La mystique, c'est quoi? C'est la nature, c'est la façon dont on est les uns avec les autres. Ce ne sont pas des choses très complexes. Mmh. Et c'est surtout pas les religions. Puisque nous allons devoir changer ceci, sortir des religions et aussi des partis politiques pour avoir un vrai mouvement d'avancer ensemble, que ce soit les populations et les gouvernants.
Mais alors comment enfin, moi, la question que je me pose... Quoique je suis intéressé aussi de savoir, de décrire ce que c'est que cette ère du Verseau, mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on a ce retour, même si j'ai des convictions bien sûr, mais j'aimerais bien avoir les vôtres, ce retour au mysticisme et ce retour au sacré. Comment on explique que, alors qu'on était dans une période très froide, entre guillemets, analytique, finalement, eh ben on revient, alors parce que c'est un mouvement de balancier, à une période où on s'intéresse au mystique, effectivement, et au sacré.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment un mouvement de balancier. Et je pense qu'on avait atteint les limites de l'industrialisation, mmh. en fait, de la finance, dans tout ce qu'elle a de moins positif. Malheureusement, la finance doit exister, mmh. mais elle doit être plus humaine.
Mmh. Et alors, si on revient à cette histoire d'ère du Verseau, est-ce que vous pouvez expliquer, alors je sais que c'est un peu à la crème, mais ce que c'est que l'ère du Verseau et pourquoi on en parle autant ces temps-ci?
Alors, l'ère du Verseau, on ne sait pas la date exacte du départ de l'ère du Verseau, personne ne le sait. Hein. Et ça a dû démarrer, à mon sens, dans les années 60, puisque l'ère du Verseau, c'est à la fois l'espace, la conquête de l'espace, c'est aussi la technologie, les NTIC, comme on disait dans les années 90, et également aussi l'astrologie, puisqu'en fait, Uranus est la planète des astrologues. Et l'ère du Verseau, c'est aussi le retour de l'astrologie.
D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose de très récent, finalement, les années 60.
Encore une fois, c'est très... c'est surtout aussi, j'ai oublié de citer Internet. Internet, les années 90, Internet, c'est vraiment... C'est les ondes, les fréquences, c'est vraiment l'ère du Verseau. Mais 30, 40, 50, 100 ans, encore une fois, à l'aune de l'univers, c'est rien du tout. Pour nous, c'est énorme, c'est presque une demi-vie humaine. Mm-hmm. Mais clairement... il faut avancer en confiance pour qu'on puisse se rétablir sur, je dirais, un socle plus mystique, quoi qu'il en soit, oui.
Et les gens que vous rencontrez, que vous voyez, est-ce que vous sentez déjà qu'il y a une ouverture beaucoup plus large par rapport à l'astrologie, ou les gens qui viennent, ils sont de toute façon, ils y croient dur comme fer à l'origine quand ils arrivent. Et est-ce que vous sentez une énergie qui est en train de bouger au niveau des individus, enfin au niveau global et au niveau des individus ?
Tout à fait, tout à fait. Alors des personnes y croient, hein, ils sont déjà tout à fait conquis, puis ils la connaissent un peu, parce que j'ai quand même des personnes qui viennent me consulter et qui connaissent l'astrologie, qui l'ont apprise, qui connaissent leur thème, ce qui est formidable, puisque c'est un outil de connaissance de soi absolument incroyable. Vous savez, quand j'ai monté mon thème il y a très longtemps, j'ai eu des surprises absolument énorme, des déflagrations, je dirais. Je vous assure. Hein. Ouais. Alors, au fond de moi, je savais que j'étais ainsi, puisque quand on monte son thème, on voit ses caractères et la façon dont on fonctionne. Mais souvent, il y a une espèce de voile jeté sur qui on est. Et là, le voile s'est déchiré de façon assez abrupte, je dirais. Et j'ai mis, je dirais, un bon mois à m'en remettre.
Ah oui, effectivement.
Tout à fait.
Et moi, je sais que dans les exercices qu'on fait, enfin, exercice, pas exercice, mais quand on fait mon thème, en tout cas, il y a des choses que je vois, en particulier des névroses ou des choses qui reviennent, et en même temps, on a du mal à lutter contre. Donc, mais est-ce que, en sachant, enfin, ce que vous m'aviez dit et ce que vous me dites à chaque fois, c'est que quand je vous dis les choses, c'est pour vous aider à mieux vivre. Voilà, ça va pas, vous n'allez pas changer demain, évidemment, mais juste mieux vivre, mieux traverser ce qui se passe, en fait.
Oui. Oui, alors, quand vous parlez de névrose, ça me fait penser au carré en astrologie. Le carré en astrologie est un aspect constricteur assez désagréable. Et quand vous êtes en but à ces carrés, en révolution solaire par exemple, alors effectivement, vous devez résoudre vos névroses. Mais c'est une aide de savoir qu'on devra s'y attaquer pour cette année. Et on a aussi des thérapeutes, ou d'ailleurs parfois aussi des livres qui sont de grands thérapeutes, parfois même aussi des films qui sont de belles rencontres pour pouvoir dépasser ceci. Parce que quand on travaille sur soi, on rencontre beaucoup de synchronicité. Et plus on avance sur ce chemin, et plus c'est facile. Alors plus c'est facile parce qu'on a des signes. Maintenant, il peut y avoir quand même des épreuves assez dures, bien sûr. Malheureusement, on ne peut pas tout éviter. Oui, j'essaye de transformer le présent en parlant du futur, mais je n'ai pas de baguette magique pour ôter le karma.
Bien sûr. Ah oui.
Et oui, mais voilà. Mais parfois, les personnes viennent avec une attente qui est peut-être plus importante encore. Mais il faut toujours affronter son destin. On le choisit, on le pré-choisit quand même, puisque on choisit ce thème qui est donc cette figure géométrique qui parle de nos plus et de nos moins. Et il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité.
D'ailleurs, on dit souvent qu'on choisit ses parents.
On choisit ses parents, même quand ils sont un peu catastrophiques. C'est tout à fait vrai. Ils nous donnent les plus et les moins que nous devons, je dirais, travailler pour cette existence.
Et alors, je décide de m'intéresser à l'astrologie, je suis aussi intéressé par des... Peut-être on va commencer comme ça. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que le karma, selon vous, enfin,
Alors, le karma... C'est à la fois transgénérationnel et aussi donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les vies antérieures, les vies dites antérieures. Alors, toujours dans l'incarnation, puisque sur le plan mystique, ça n'existe plus. Par exemple, quand vous avez un carré à Vénus, vous allez devoir travailler votre vie sentimentale. Quand vous avez un trigone dans la maison 8 ou un magnifique Mars en maison 8, vous n'aurez pas à travailler la vie financière. Donc en fait, dans votre thème natal, tout est inscrit de vos qualités ou de vos défauts, entre guillemets. Et aussi de ce que vous avez vraiment travaillé dans ce qu'on appelle, encore une fois, les vies antérieures, et de ce que vous n'avez pas travaillé du tout. Donc, quand on rencontre des carrés, on voit que l'entité, si vous préférez, n'a pas travaillé certaines choses. Et parfois, ça se transforme en 2-3 carrés sur le même faisceau. Et là, ça devient très compliqué. Parfois, des personnes sont désespérées et quitte la vie parce que justement elle n'arrive pas à dépasser ses carrés. Et je dirais que l'astrologie peut aider à être peut-être moins désespérée dans certaines situations et à comprendre que ça n'est qu'un passage et qu'on peut toujours aller au-delà. Et vous savez qu'on a des spots de bonheur. On n'est pas dans la vie pour être heureux. C'est pas le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est travailler sur soi. Ici, c'est l'université. Et quand on part, on retourne chez nous. De l'autre côté du voile, c'est chez nous. Beaucoup de gens se trompent de côté. Ici, c'est le travail. L'autre côté, c'est le repos.
On ne le voit pas sur le côté.
Mais c'est aussi le bilan.
Oui, bien sûr.
Et donc, pardon. Allez-y. Notre thème parle effectivement de nos bilans successifs.
D'accord. Et alors, si je m'intéresse à l'astrologie, comment je peux commencer à m'y intéresser? Parce qu'en fait, je crois que ce qui fait du mal aussi à l'astrologie, c'est les petits thèmes qui sont dans les magazines où vous avez Sagittaire, enfin moi je suis Sagittaire, donc j'ai commencé par Sagittaire, mais Sagittaire, Capricorne, Verseau, etc.
Joli signe Sagittaire. Non, mais il y a des signes plus faciles que d'autres. Quand même, Sagittaire, c'est plus facile que, on va dire, Scorpion, sans vouloir stigmatiser. Hein. Mais non, mais vous comprenez, dans l'énergie, c'est Soleil et Scorpion est beaucoup plus abrupt qu'un Soleil en Sagittaire. Maintenant, le Soleil ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez avoir un Soleil en Sagittaire et une Lune en Scorpion. Ça va donc faire de vous quelqu'un d'amène, mais avec un caractère bien trempé et des réparties parfois cinglantes.
Mais est-ce que ça ne fait pas du mal, ces petits astrologies dans les magazines versus ce qu'est l'astrologie, et comment je peux commencer à m'y intéresser? Enfin, j'imagine que je peux aller chercher en ligne, mais est-ce qu'il y a des sources particulières?
Oui, tout à fait. Alors, pour l'astrologie dans les magazines, c'est pas vraiment une astrologie, on va dire, très, très ciblée. C'est une astrologie globale. Donc, les astrologues qui parfois travaillent sur ces thèmes prennent le soleil, par exemple, taureau. Soleil, taureau, premier décan, il va vous arriver ça. Alors, une fois sur mille, ça peut tomber juste, vous comprenez. Mais c'est un amusement en plus que, voilà, plus, c'est pas un thème astral. Il y a, en fait, un univers entre ce que vous pouvez voir dans les journaux, et vous le savez, Grégory, et un thème astral ou une consultation d'astrologie. Maintenant, pourquoi pas, si ça peut faire connaître l'astrologie. Et parfois, c'est assez sensé. J'ai lu certains horoscopes dans des publications, et c'était assez cohérent.
D'accord.
Maintenant, c'était hyper généraliste.
Bien sûr.
Voilà, donc pas forcément à critiquer, mais ça n'est pas ça. L'outil connaissance de soi va être votre thème astral, et il faut que vous le compreniez pour pouvoir avancer si ça vous intéresse vraiment.
Bien sûr. Et alors, si je m'intéresse justement à mon thème astral et à l'astrologie de manière plus spécifique, par où je commence?
Alors, vous pouvez commencer par un livre qui va vous indiquer quelles sont vos planètes en signe et en maison. Vous prenez donc un horoscope vierge, vous le montez avec la table des maisons et puis les éphémérides américains, parce que maintenant on a des logiciels, mais quand j'ai démarré l'astrologie, je montais tout à la main. Il fallait environ une heure pour monter un thème. La même chose pour une révolution solaire. Donc c'est formidable l'informatique. Donc en fait, il est tout à fait possible de monter son thème et de commencer à comprendre les ressorts de notre incarnation avec une publication, avec en fait un livre un peu bien fait. Voilà, il y en a des dizaines, des centaines sur le marché.
D'accord, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre? Enfin, j'imagine que si, mais...
Non, parce que un livre va vous correspondre, par exemple, et puis un autre va me correspondre. On ne peut pas dire qu'une façon d'étudier va être meilleure qu'une autre, parce que nous sommes tous très différents.
Okay.
Donc il est compliqué de recommander un ouvrage. Et par ailleurs, en ce qui me concerne, il faudrait que je recommande des ouvrages des années 30, parce que mes références sont des livres des années 30 qui sont absolument extraordinaires. Ils sont plus vraiment en vente à la FNAC, je dirais. Voilà.
Mais
vous pouvez parfois les trouver sur Amazon ou autre.
D'accord, ok. Donc on les trouve quand même.
Oui, mais bon.
Et vous en avez cité quelques-uns des auteurs?
Cité quelques auteurs qui sont absolument fabuleux, je vous assure. C'est d'une érudition, d'une poésie, c'est fabuleux.
D'accord.
Oui. C'est un plaisir, même quand on n'est pas astrologue.
Et alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, les gens s'y intéressent de plus en plus. Est-ce que... dans ce changement de société qu'on est en train de vivre, on passe dans une époque qui est beaucoup plus spirituelle.
Alors,
spirituelle n'y étant pas religieuse, bien sûr.
Voilà, je dirais même encore beaucoup plus mystique. Et la Covid nous pousse dans ce sens. Je le vois de façon astrologique. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas ce type de vision peuvent ne pas comprendre ce qu'il se passe. Mais il est clair que la Covid nous pousse dans des comportements plus doux, dans plus de compréhension, dans plus d'humanité, dans moins de compétition avec l'autre. Et pour moi, le mysticisme, c'est vraiment le quotidien. C'est-à-dire que dans la façon dont vous allez être avec les autres dans une entreprise, même dans la rue, le sourire que vous allez donner aux passants, vous voyez, la façon dont vous allez être chez votre boulanger, pour moi, c'est ça le mysticisme. C'est être vraiment dans une attention à l'autre, mais une véritable attention à l'autre. Hmm. Pas un masque, si je puis dire.
Ouais. Hein,
voilà, en tout cas. Mais même derrière le masque, on peut sourire. Et quand vous souriez derrière le masque, les gens le sentent.
Hmm. Oui, c'est une question d'énergie, bien sûr.
Oui, c'est une question d'énergie.
Et alors, donc ce mouvement, il est global. C'est plutôt positif, d'ailleurs, ce que vous dites, parce que finalement, on va vers cette énergie qui est beaucoup plus... dans le lien, cette énergie dans laquelle on était avant, qui était plus peut-être mortifère. Et on y va. Donc, il y a un côté négatif autour de la maladie. Il y a un côté négatif, sans doute, autour du confinement ou en tout cas des impacts que ça peut avoir. Et puis, il y a un côté plus positif si on regarde à long terme.
Tout à fait. En fait, nous sommes en recherche de repères.
Mm-hmm.
Et donc, et comme je le disais tout à l'heure, il faut un effort global pour pouvoir accéder en fait, au nouveau paradigme. Et ça va demander un effort considérable. Mais c'est un effort concerté, encore des populations et des dirigeants. Mais ça prendra plusieurs générations. Alors j'espère que, moi, dans cette génération, je verrai le début de tout ceci. Mais ça prendra du temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer.
Donc il faut rester positif, quand même.
Voilà, il faut absolument rester positif. Mais vous savez, cette crise sanitaire peut déboucher sur une crise vraiment alimentaire. Et donc il faut y prendre garde. Et en fait aussi, il y a pas mal de questions à se poser sur le système éducatif. Il faut freiner la culture de la performance, par exemple, et reconsidérer toute l'échelle des métiers. Mmh. Ainsi que la rémunération. Ceci, je le vois en révolution solaire. La révolution solaire de la France entre donc octobre 2020 et octobre 2021.
D'accord.
Donc, ce pire que nous connaissons actuellement sera peut-être considéré un jour comme un changement positif dans notre histoire. Finalement, un nouveau système avec de nouvelles valeurs. Mmh. Donc, j'ai confiance.
Moi, j'ai plutôt confiance aussi, oui, hein, même si oui. C'est très pénible au quotidien.
C'est très pénible au quotidien, absolument.
On voit bien que, et on en discutait un petit peu avant, je pense que la situation actuelle, elle est aussi liée sans doute au dysfonctionnement de notre modèle passé de société. Donc, finalement...
Tout à fait. Il faut le revoir. Et toute la révolution solaire de la France, et d'ailleurs, j'ai aussi regardé celle des États-Unis, va dans le même sens. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut tout repenser. Mais il y aura un petit peu un peu de casse, certainement, pendant quelques mois, peut-être quelques années, voilà, pour pouvoir repartir sur un modèle beaucoup plus sain.
Donc en fait, il faut être patiente.
Il faut être patient et on peut tous apporter notre petit grain, nos bonnes intentions à ce renouvellement.
Et comment on fait alors du coup pour apporter son petit grain, justement, pour aller dans le bon sens, pour pas être dans le frein, mais plutôt être dans l'accompagnement ?
Dans l'accompagnement, eh bien justement, changer nos instincts de possession, repartir vers l'autre de façon, je dirais, très, très sincère. Ça n'est pas toujours le cas, puisque nous sommes toujours dans une interaction industrielle, comme on disait tout à l'heure, ou un peu financière. Alors, c'est nécessaire, bien sûr, hein, dans nos échanges économiques et dans la vie quotidienne. Mais il faut revenir à des valeurs plus pérennes.
Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte.
Alors, oui. Alors ça, excellente question. Alors, en fait, j'ai envie de claquer la porte au connu.
D'accord.
Finalement, le connu, c'est le passé, c'est tout ce qu'on peut aussi voir dans ces révolutions solaires anciennes, qu'elles soient personnelles ou françaises. J'ai envie de claquer la porte à tout ça pour se dire, ça y est, on va pouvoir vraiment repartir sur des événements mondiaux positifs et emmenants. Mmh. Et ouvrir la porte à la mystique.